présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, vous allez peut-être entendre des bruits particuliers, des bruits de casse, de choses que l'on déplace fort, des bruits de pas, de cris, etc., etc. Parce que je viens d'avoir, depuis le 1er juillet 2002, et nous sommes en 2003, mars, fin mars 2003, un couple qui est au-dessus de chez moi, un dénommé P, qui fait un bruit pas possible. Il m'empêche de dormir, il me réveille toute la nuit, il court, il va dans tous les coins, il saute, il déplace des meubles, enfin je comprends absolument pas ce qu'il est en train de faire. J'ai essayé de monter voir pour discuter avec lui, mais il m'a pas ouvert la porte. C'est un homme extrêmement déplaisant, il a 30 ans, mais il se comporte comme un gamin d'une dizaine d'années. Voilà, bon, enfin, c'est comme ça, j'espère qu'il ne va pas trop nous ennuyer lorsque je ferai mon enregistrement, cet imbécile. Je suis très très fatigué parce que je n'ai pas pu dormir, je ne peux pas dormir une nuit complète à cause de cet abruti. Et le dimanche, je vous assure, il commence à faire son boucan de 6h30 du matin à 2h du matin. Vous voyez à peu près ce que ça fait. Ma foi, c'est comme ça. On n'y peut rien. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse, parce que c'est pour vous excuser si vous entendez du bruit. Voilà. J'ai commencé mon plan de cette nouvelle histoire le 1er février 2003. Puis, je commence à écrire le 9 février 2003. J'aurais pu continuer mon plan jusqu'à la fin de l'histoire, mais cette année est une année un poids du temps très chargé. Je dois commencer l'histoire maintenant pour la finir dans l'année. J'ai aussi à faire ma vidéo de 5 heures, les illusionnistes. Cette vidéo où j'ai fait les décors l'année dernière en juillet. Je n'avais pas pu filmer parce que ma caméra était tombée en panne, ainsi qu'un appareil d'effets spéciaux numériques. Ma caméra a été réparée, mais pas mon appareil. Cela fait presque un an qu'il est en réparation. La maison TED devait le donner à Sony Pro, mais il a voulu le faire lui-même, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour rien. Et en ce moment, je ne sais même pas si mon appareil pourra être réparé. L'année dernière a été une année très pénible et chargée. J'ai écrit et enregistré deux histoires. Merveilleux Monsieur Bébé et Le sang des dieux. Ces histoires font partie de l'élu et de violence et crépuscule. Cela m'a fait plus de 200 heures d'enregistrement. Je trouve que Merveilleux Monsieur Bébé est plus intéressant, élaboré que Le sang des dieux. Peut-être parce que je le trouve plus faible, parce que le personnage n'a pas de défaut. Il est tout seul aussi, n'a pas vraiment de compagnon, que des rencontres. Il est trop lisse, Monsieur Bébé est plus ambigu. Pour cette histoire, je veux laisser le monde de violence et crépuscule et de l'élu pour autre chose. Peut-être retournerai-je à violence et crépuscule et l'élu. Mais là, j'ai voulu faire un entracte, comme je l'ai fait d'ailleurs après violence et crépuscule, où j'ai écrit avant d'écrire Imani, film intérieur et une histoire sur la création de l'écrivain. Mais là, j'ai arrêté cette suite, ou plutôt ces compléments, parce que comme vous le savez, les histoires que j'ai écrites de cette série sont des enchevêtrements de personnages qui deviennent principaux, chacun à leur tour, etc. Bien sûr, en plus de cette série, j'en ai écrit d'autres séries, des centaines peut-être, et peut-être des milliers de petites nouvelles de toutes sortes. Certaines de mes petites nouvelles sont plus intéressantes que ces grandes histoires. J'ai fait aussi des adaptations de romans et des émissions historiques, mais des émissions historiques qui étaient présentées comme des histoires. De celles-là, vous ne les entendrez plus. Toutes mes émissions sont enregistrées et je les garde, mes écrits aussi, sauf pour mes premières émissions qui étaient en direct, et là, il n'en reste plus rien. Donc, cette nouvelle histoire, j'ai voulu raconter, pour cette nouvelle histoire, j'ai voulu raconter l'histoire des gens qui vivent dans un hiver dur, repliés sur eux-mêmes, et qui vivent des grandes passions. Pour avoir un décor qui correspond à ce dont j'ai besoin et des personnages qui puissent vivre et penser comme je le souhaite, j'étais obligé, c'est de faire vivre mon histoire au 19e siècle et de choisir un lieu indéfini du point de vue géographique réel, mais pas pour la description. Après avoir écrit pendant quelques années dans l'univers de l'élu, c'était simple, l'univers de l'élu, pour moi. J'avais le décor déjà, les personnages, l'ambiance, etc. Il me suffisait de me pencher sur un des personnages ou même une silhouette et une continuité pouvait s'en suivre. Mais là, je n'ai rien. Tout est à faire. Décor, personnages, etc. Je suis sans filet. matin, 9h, le ciel est gris. Il fait pas froid. Je suis angoissé. Et je n'ai pas envie d'écrire, plutôt de dormir. Depuis le mois de juillet 2002, j'ai des difficultés à dormir. Mon voisin, dessus, qui vit avec une copine, est un jeune vieux de 30 ans. Fait du bruit à partir de 23h et ça dure jusqu'à 9h du matin. Ça marche avec des chaussures, ça court même. Ça tire les meubles, ça les fait grincer sur le sol. Ça tire de l'eau constamment. Et ça dure, ça dure. Sans parler d'autres bruits. Et des bruits qu'ils font pour assumer leurs besoins sexuels. Je pourrais vous faire écouter d'ailleurs une partie de la cassette que j'ai enregistrée. Une nuit. J'ai beau leur dire d'arrêter. Pour m'ennuyer, en plus, ils mettent de la musique. J'en ai parlé à ma régie, qui ne fait rien, qui ne peut rien faire, parce que c'est des locataires, et en plus, c'est le fils d'un propriétaire. Ce qui fait que je passe des nuits blanches. La journée, je suis si fatigué. Merci à mon locataire du dessus. Si mon histoire n'est pas si bien écrite, si l'enregistrement n'est pas bon, c'est de sa faute. Si je tombe malade et que je ne peux écrire, c'est de sa faute. Oui, de sa faute, la seule part de P. Monsieur P. Monsieur P, un vrai salopard. C'est vrai, Monsieur P existe vraiment, il est au-dessus de chez moi. Tout ce que je vous dis est la vérité. Que vous dire encore avant de commencer l'histoire? Eh bien, je me suis acheté un DVD enregistreur. C'est bien, mais je suis un peu déçu par les bonus des DVD. Je trouve que certains sont du bluff. C'est des anciennes interviews télévisées coupées en tranches. C'est même coupé en tranches mal foutues. Certains n'ont pas grand-chose. Je me suis acheté autant en emporte le vent. Parce que je voulais, c'était voir le documentaire qu'ils avaient fait sur Autant n'importe le vent sur la façon dont le film avait été fabriqué. Malheureusement, aucun bonus dans ce DVD, mais alors aucun bonus, rien du tout. Les films français n'ont pour la plupart pas grand chose, à part des exceptions, c'est décevant. Pour ce qui est de la qualité de l'image, elle est bonne. mais comme j'avais déjà un bon VHS, parce que de pro, donc ça ne me change pas beaucoup. Pour ce qui est du son, si vous n'avez pas plusieurs enceintes, elle est trop faible. Pour les DVD enregistrés, c'est bon. Bonne image et son. À part les films que j'ai vus à la maison, j'ai lu quelques livres. Je suis toujours très fatigué, démoralisé. J'ai peur de l'avenir. J'ai eu une discussion avec un ami qui défendait les metteurs en scène de cinéma ou de théâtre qui adaptaient, arrangeaient les œuvres des autres, trituraient les œuvres des autres. Pour moi, je lui ai dit que ce n'était pas normal. Qu'un metteur en scène fasse dire des choses que l'auteur ne voulait pas dire. Comme par exemple le metteur en scène qui a fait le film de 24 heures de la vie d'une femme, il dit dans une interview que c'est un film contre Le Pen, contre les fascistes. Il a transformé une histoire d'amour rapide, une rapide folie de 24 heures, une histoire militante pour défendre ses idées. S'il voulait faire un film anti-Le Pen, il n'avait qu'à prendre un scénario qui corresponde à ce qu'il voulait dire ou l'écrire lui-même, au lieu de prendre l'œuvre d'un autre et de la transformer. Un bon metteur en scène qui adapte une histoire d'un autre est au service de l'œuvre de l'auteur. Il doit démontrer ce que veut exprimer celui qui l'a écrite, au lieu que l'œuvre doit exprimer ce que veut dire le metteur en scène. L'œuvre d'un auteur ne doit pas être au service du metteur en scène, mais le contraire. Si le metteur en scène a quelque chose de particulier à dire, à s'exprimer, il n'a qu'à écrire ou faire écrire pour lui. Mais ne pas voler, oui, voler ou violer l'œuvre d'un autre. Les comédiens, c'est la même chose. Du moment qu'ils acceptent de jouer un rôle, ils doivent le jouer comme c'est prévu par l'auteur. Et laisser au vestiaire leurs idées privées et militantes. Une comédienne qui refuse de jouer, comme on lui dit, parce que les agissements de son personnage et ses idées ne correspondent pas à ses idées à elle, est une mauvaise comédienne. Elle ne joue pas, elle défend ses idées. Malheureusement, on accepte à des acteurs de le faire. Et les acteurs jouent leur personnage d'après ce qu'ils pensent de la transforme l'histoire. Le personnage est défiguré et on a violé l'œuvre de l'auteur. Une histoire écrite au 19e siècle, le personnage ne peut agir et avoir les mêmes idées que les gens de notre époque. Alors, si l'on accepte de jouer ce rôle, le rôle d'une personne du 19e, on se doit de le jouer dans le contexte de son époque. Et même si une histoire raconte la vie d'une femme soumise, on doit la jouer soumise, même si on est contre la soumission des femmes, où on ne joue pas le rôle. Être acteur, c'est entrer dans la peau d'une autre personne, bonne ou mauvaise, etc. Lorsque je vois sur une affiche ou un programme, par exemple, une pièce de un tel, et que j'ai envie de voir cette pièce comme je l'ai connue, je suis déçu et attristé d'assister à une autre pièce, une vulgaire adaptation de l'œuvre, modernisée d'époque, suppression de personnages, transformation du thème, etc. Je suis déçu et me sens escroqué. Pourquoi ne pas avoir mis sur les affiches et programmes que la pièce était une adaptation libre et modernisée de l'œuvre de un tel? J'aurais su que ce n'était pas la vraie pièce que j'allais voir, mais une élucubration d'un metteur en scène. On se plaint que le public ne va plus au théâtre, et c'est normal de la façon dont il est traité. Metteur en scène de cinéma et de théâtre, si vous avez des choses à dire, au lieu de saccager l'œuvre d'un autre, écrivez ou faites écrire une œuvre originale, mais ne faites pas du jeune avec du vieux. Ne tuez pas les œuvres des autres, ne les violez pas. La vraie création se fait avec de la nouveauté et non du vieux. Voilà, j'ai fini cette introduction qui m'a permis, c'est de commencer ma nouvelle histoire, de me mettre un petit peu dans le mouvement d'écriture. J'espère c'est que cette histoire sera aussi bien que les autres, qu'elle vous plaira. Et j'espère surtout c'est que plus tard, on n'adaptera pas mon histoire d'une façon tout à fait bizarre, mais qu'on la présentera exactement comme je l'ai souhaité. Place à l'histoire. Il ouvre les yeux, mal à la tête, ruisselant de pluie, entouré d'éclairs. Une masse sombre apparaît et se penche sur lui. Le soulève, le met sur ses pieds, lui tend la main et le fait marcher près d'elle. Il marche au milieu d'un paysage terrifiant, d'éclairs, d'ombres mouvantes. Ils sont trempés. La grande ombre noire qui le mène a une grande capeline et un chapeau à large bord. Il n'est pas terrorisé, il se laisse mener, parce qu'il est comme une personne qui vient de naître. Le chemin est un ruisseau. Il marche pieds nus. L'ombre lui tient bien fermement la main. Ils avancent difficilement au milieu de l'orage. Il a toujours mal à la tête. Ses yeux sont fixes et durs. L'orage gronde cette nuit. La fosse au diable est un creux entouré de petites collines nues et sauvages. Mais les collines, peu hautes et nues, ne protègent pas du vent la ferme qui se trouve dans la fosse au diable. Un petit mur de pierre, mal posé, d'à peine 90 cm de hauteur, entoure la propriété. La maison est une grande masse crapue. Cette nuit, elle ressemble à un gros caillou noir, sans forme et couché à terre. C'est la ferme des Thermann. L'orage gronde de plus en plus fort. Le chien de la ferme ne demande pas à sortir. Après avoir mangé, sa soupe est allée s'étendre devant la cheminée où un bon feu pétille. L'humidité, le vent entre dans la maison. Et même en plein été, on est obligé de faire du feu. S'est allongé tout son long sur la pierre du carrelage. La chaleur du feu et les flammes inoptisent l'endort. La pièce est grande, sombre. On ne voit pas les murs parce que seule une lampe à pétrole posée sur la grande table de bois éclaire avec le feu. Une femme est assise sur un banc à table. Elle semble grande, maigre, porte une robe noire, toute simple. À ses pieds des sabots de bois. Ses mains maigres, osseuses, posées sur ses genoux, tiennent un chiffon blanc. Sa Son visage est triste, osseux. Le nez et les lèvres, minces. Des rides. Des beaux yeux bleus. Cheveux en chignon blanc. Elle semble résignée et soumise. La porte s'est ouverte. Elle sursaute. Se lève. Là, elle voit au milieu des éclairs un grand homme habillé du capelin noir et d'un grand chapeau à large bord. Il est ruisselant. Tête en longueur, osseuse, barbe et moustache en broussailles noires. Le regard est dur. Il tient à la main un enfant d'environ 10 ans en guenille. Presque nu, tellement ses vêtements sont déchirés, sans les tremper lui aussi. Il est maigre, cheveux longs, plats et blonds, tête osseuse, yeux bleus. Regarde, tendu et dur. L'homme et l'enfant font un pas et demandent
« Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ?»
Elle lui dit
« Rien. »
Ferme la porte. Il quitte sa capeline et son chapeau. Il le lui tend. Elle va le déposer sur une chaise près du feu. Tout va vers l'enfant menaçant. L'homme donne un coup de pied au chien.
Ça suffit. Va te coucher.
Il voit sa femme debout, qui ne fait rien.
Pourquoi est-ce que tu restes comme ça?
Il me dit,
il est tard.
Il ne dit rien.
Qui est cet enfant?
C'est Luc, il va vivre chez nous.
Qui est-ce?
Je te l'ai dit.
Et d'où vient-il?
T'occupe pas, il a besoin d'un toit.
Il y a l'enfant, qui n'a pas bougé. Les yeux fixes et durs.
Va t'asseoir près du feu.
C'est ce qu'il fait. Et trempé et pieds nus. S'assoit sur une chaise. Le chien vient le renifler. De loin. Il a l'air hostile. Il dit à sa femme.
Donne-moi de la soupe.
Il va s'asseoir à table. Elle va au buffet. Prendre 2 bols et 2 cuillers de bois. Il va prendre la soupe d'un chaudron qui se trouve à la cheminée. À son mari. Et un autre temps à l'enfant. Qui le prend sans rien dire. Malgré la chaleur, il mange goulûment. Elle reste debout près de son mari. Il lui dit, il va falloir c'est lui trouver des vêtements. Et tu le feras coucher dans la grange.
Il demande, il va vivre longtemps ici?
Oui, va lui chercher des affaires. Elle sort de la pièce. Lui, il continue à manger. Luc a fini de manger. Je demande pourquoi on l'a amené ici. Il se souvient ? Plus de rien. Plus très bien. Il s'est réveillé avec une chaleur à la tête, comme un coup, comme si on l'aurait assommé. Il était à terre, dans un fossé. L'orage grondait. Une masse sombre l'a soulevé, mis sur ses pieds, pris par la main et mené ici. Il vient d'apprendre qu'il s'appelle Luc, mais il ne sait rien d'autre. Sait-il seulement parler? Il le pense. Mais il ne sait pas vraiment. Mais qui est-il? Il est né de l'orage et rien d'autre. Rien d'autre. La femme revient. Elle a des vêtements. Le mari ne la regarde pas. Elle va vers l'enfant et lui dit « Viens !» L'enfant se lève. Elle lui tend ses habits, lui le bol, qu'elle va déposer sur la table. Dans un coin de la pièce. Elle le déshabille. Il est trempé. Déchiré, plein de boue. Avec un torchon, elle le nettoie un peu. Pour enlever le plus gros de la boue. Une fois que c'est fait, elle le frictionne. Déshabille-toi complètement. Enfin, se déshabille complètement. Une fois qu'il est fini de se déshabiller, s'habille avec de vieux vêtements, trop courts pour lui. Viens avec moi. Et elle le fait sortir de la pièce. Ouvre une porte. Entre. Elle donne directement à la grange. La grange est de taille moyenne. Cloison de bois qui la sépare de l'écurie. Il y a un tas de foin contre le mur des outils de jardinage. C'est C'est sombre. Ça sent le foin, l'écurie. Il ne fait pas très chaud. Elle lui dit,
tu te couches dans le foin.
L'enfant le regarde dur. S'allonge dans le foin. Elle le laisse. Il est tout courbaturé, encore mal à la tête, voit les éclairs à travers les fentes du bois. Il n'a pas peur, mais un peu froid. Se recouvre de foin, épuisé, et s'endort. Il ne rêve pas. Il ne peut pas rêver parce qu'il n'a pas de passé. Le réveille. Il sent qu'il est recouvert de choses désagréables. Il fait de grands gestes de la main pour s'enlever tout ça. Voit à travers les fentes le jour. Voit que c'est une grange. Il ne se souvient pas qui il est. Il reconnaît les choses, reste allongé comme ça, ne sachant que faire. Il entend des pas dans la pièce voisine. Le couvert que l'on met. Porte qui s'ouvre. J'entends des pas. On a à manger. Père est entré bien tard et pas seul. Viens manger, Jeanne. Qui est la personne qui est venue avec lui? Tu verras toi-même. Tu peux pas me le dire? Je ne le sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Et ton frère? Il est parti. Sans manger? Oui, il ne veut pas aider. Et puis, alors il est parti. Ton papa va être furieux. Ton frère n'est pas bien. La porte s'ouvre. Bonjour père.
Bonjour.
Le père s'assoit à table. La mère le serre. Elle serre la jambe aussi. Le petit n'est pas levé. Jean lui dit.
Il est parti ce matin.
bruit de la cuillère qu'on a jetée à terre. Tu l'as fait partir, il ne fallait pas. Où est-il allé ?
Femme lui dit. Tu fais pas de soucis. Il est déjà parti plus d'une fois et revient.
Mais de qui parlez-vous ? Moi je parle de Luc.
La mère lui dit. Je sais pas s'il est levé celui-là.
Eh bien, va et mène le manger ici.
Et pas, je me demande.
Qui est-ce ?
Le père ne répond pas. La porte de la grange s'ouvre. Luc ne bouge pas. Et pas.
Va pencher sur lui, la femme ne bouge pas. Elle lui dit, viens manger.
Alors, il se lève.
Et la suit.
Dans la pièce, il voit assis l'homme en face et en face de lui une petite fille d'à peu près 10 ans. Elle est mince, presque maigre, visage lumineux, mais avec une façon qui a de la dureté.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.